Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghettis.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. On se rapproche de Noël dangereusement. Marianne Paquette au micro, c'est bon pour la santé pour les 30 prochaines minutes sur Canal M. À l'automne dernier, un nouveau rendez-vous radiophonique sur la santé et la consommation prenait l'antenne sur les ondes de Ici Radio-Canada Première. Et j'ai eu envie de demander à l'animateur Philippe Desrosiers quelles étaient les découvertes les plus utiles, les plus cool. Moins, celles qui ont retenu son attention dans les derniers mois. Il sera là en deuxième partie d'émission pour nous en parler. Mais d'abord, aux États-Unis, un enfant est soigné aux urgences toutes les 3 minutes pour une blessure causée par un jouet. C'est ce que révèle une étude très récente que j'ai pu consulter sur le site de Naître et Grandir. On nous révèle aussi que dans un peu plus de la moitié des cas, les enfants sont âgés de 5 ans ou moins. Noël s'en vient, je le disais, et à Noël, ce qu'on aime offrir aux petits, en collaboration avec le Père Noël, bien sûr, ce sont des jouets et des jeux. Comment s'assurer que c'est approprié pour la santé, pour la sécurité de nos enfants? J'en parle avec Alexandre Nadeau, inspecteur de la sécurité des produits et porte-parole pour Santé Canada. Alexandre Nadeau, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Selon les scientifiques, les jouets sont des outils pour les enfants. Ils en ont besoin pour explorer, pour découvrir, pour s'épanouir, pour relever des défis. Donc, ensemble, c'est bon, il faut préciser, c'est important pour les parents de permettre, même d'encourager que leur enfant joue. On va tenter ensemble de proposer aux parents plus d'informations pour que ça se passe de façon sécuritaire. D'abord, comment on s'assure, en fait, qu'est-ce qui est important là, quand on est au magasin? On s'assure de quoi?
Bien, d'abord, je pense que vous aviez raison de mentionner que le jeu a son importance dans le développement cognitif de l'enfant. Encore faut-il que les jouets qui sont achetés par le parent soient sécuritaires. Donc, ma première recommandation, c'est de choisir des jouets qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Donc, les fabricants de jouets recommandent un âge minimum pour leurs jouets et on retrouve généralement cette information-là sur l'emballage du produit. Donc, lorsqu'un fabricant émet une recommandation selon l'âge, il ne considère pas seulement le degré d'habileté qui est requis de la part de l'enfant. Donc, c'est d'abord des considérations de sécurité qui vont orienter sa recommandation. Donc, les exigences en matière de sécurité ne sont pas les mêmes pour les jouets des enfants de moins de 3 ans et les jouets des enfants plus âgés. Donc, la principale différence entre les deux catégories de jouets, c'est que les jouets des plus vieux enfants peuvent comporter des petites pièces avec lesquelles un jeune enfant risque de s'étouffer. C'est la raison pour laquelle, dans l'étude à laquelle vous faisiez référence, ce sont surtout les enfants de moins de 5 ans qui sont victimes de blessures avec les jouets. Donc, vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est qu'une petite pièce avec laquelle l'enfant risque de s'étouffer? Quelle taille que ça a? Mm-hmm. Donc, une référence pratique qu'on peut utiliser à la maison pour déterminer si une pièce pose un danger d'étouffement, c'est l'intérieur d'un rouleau de papier hygiénique. Donc, si une pièce est suffisamment petite pour passer dans le rouleau, c'est un indice qu'elle pose un risque.
Mm-hmm. Il y a aussi une alerte aux aimants parce que, il y a des chiffres assez révélateurs là-dessus. Là. C'est une étude réalisée au Canada par des scientifiques qui notaient que le cas d'ingestion, oui, aux aimants chez les enfants avait triplé entre 2002 et 2012 parce qu'on retrouve des aimants dans les casse-têtes, les jeux de construction, les figurines, les poupées. Ça aussi, il faut observer. Est-ce que c'est inscrit sur la boîte? On retrouve des aimants dans le jouet?
Bien, je suis content que vous souleviez la problématique parce que vous avez raison de dire que ces produits-là sont devenus de plus en plus populaires dans les dernières années. Et à la différence des aimants traditionnels, les aimants qu'on retrouve aujourd'hui sont souvent des très petits aimants. Donc, lorsqu'on parle de petits aimants, petites pièces, le risque, c'est de les avaler. Donc, ces aimants-là de petite dimension, mais qui ont une très grande force d'attraction. Donc, le risque associé avec les aimants, c'est lorsqu'on en avale plus qu'un, ils vont s'attirer mutuellement à travers le tube digestif et ça risque de provoquer un blocage ou encore un déchirement intestinal. Donc, les conséquences, on l'imagine, peuvent être même mortelles. Mm-hmm. Donc, on pourrait penser intuitivement que ce sont seulement les jeunes enfants qui sont à risque de mettre ces produits dans leur bouche, mais pourtant, il y a même des enfants plus âgés qui ont cette habitude-là, des fois en l'insérant à l'intérieur de la joue pour simuler un perçage. Donc, on doit enseigner et expliquer aux enfants que ces aimants-là ne doivent pas être mis dans leur bouche. Je pense que le plus sécuritaire, c'est de ne pas les exposer à des petits aimants. Donc, notre ministère a pris des mesures dans les derniers mois pour que certains produits soient retirés du marché. Des produits qui, quelquefois, n'étaient pas des jouets, ça pouvait prendre la forme de petits aimants qu'on manipule pour créer des formes géométriques, comme des cubes ou des sphères, qui n'étaient pas nécessairement des jouets adressés pour les enfants, mais qui risquaient néanmoins de se retrouver dans l'environnement de l'enfant. Donc, c'est pour ça que notre ministère a pris des mesures pour que ce genre de produits-là soient retirés du marché. Et si vous en avez toujours à la maison, on vous encourage soit à vous en débarrasser ou les mettre à l'écart des enfants.
Alexandre Nadeau, cette étude-là révélait également que les blessures qu'on retrouve le plus souvent chez les petits en matière de jouets et de jeux, c'est avec les roulettes. En fait, c'est plutôt les chutes. Donc, on mettait l'accent sur les tricycles, par exemple, ou ce type de jouets-là, où on peut avoir des collisions, tomber aussi. Ça aussi, c'est à faire attention si on est un parent.
Bien, certainement, puis j'en profiterai pour rappeler que certains produits qui, dans leur nature, sont sécuritaires, mais le jeu en soi requiert une certaine supervision des parents. Et dans l'étude à laquelle vous faites référence, on incluait dans les jouets qui roulent les fameuses marchettes.
Oui.
Donc, marchettes qui ne sont pas interdites aux États-Unis, mais elles le sont au Canada. Et des fois, on se fait poser la question, mais pourquoi ces produits-là sont-ils interdits au Canada? Et ça fait, soit dit en passant, un petit peu plus que 10 ans qu'elles le sont. Donc, avant leur interdiction, là, si on se rapporte là, avant les années 2000, les blessures liées aux marchettes étaient responsables là, à elles seules de 10 % des admissions d'enfants dans les salles d'urgence. Donc, ça démontre un risque élevé. La blessure la plus commune qui était liée à l'utilisation d'une marchette, c'était bien sûr les chutes dans un escalier. Mais il y a peut-être un élément un petit peu plus sournois, c'est que lorsqu'on place un enfant dans une marchette, l'enfant est à l'âge de se déplacer seulement qu'à quatre pattes en rampant au niveau du sol. Donc, l'environnement au niveau du sol va probablement être sécuritaire. Mais là, instantanément, on confère à l'enfant une portée, une mobilité qu'il n'avait pas l'instant d'avant. Donc là, les éléments qui sont, par exemple, sur le comptoir de la cuisine, ça peut être un couteau, un cordon de bouloir, une poignée d'une poêle qui est sur la cuisinière, deviennent accessibles à l'enfant. Et les parents nous disent « Oui, mais je le surveille, mon enfant, quand il est dans la marchette. » Oui, mais des fois, ça ne peut ne pas être suffisant. L'enfant dans une marchette va se déplacer à 1 mètre par seconde, donc ça ne laisse pas suffisamment de temps à l'adulte pour intervenir.
Oui. Faut-il faire attention à la un petit peu comme en alimentation, là, à la provenance des pays?
Bien, c'est une bonne question et vous êtes nombreux à la soulever. On a quelquefois des questions des consommateurs à cet effet-là. Je dirais que pour être vendu au Canada, le jouet doit rencontrer les mêmes exigences réglementaires, qu'il ait été fabriqué au Canada ou à l'étranger. Et Santé Canada a un contrôle sur les produits qui sont importés, donc on fait régulièrement des vérifications auprès des importateurs, et même on mène des inspections conjointes avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour vérifier la conformité des produits et des jouets là, avant même leur entrée au Canada quelquefois. Et je dirais que dans les dernières années, les parts de marché des jouets issus de l'importation est en croissance sur le marché canadien, et pourtant les taux de conformité qu'on observe lors de nos activités de vérification sont les mêmes ou même sont de mieux en mieux, même si la réglementation s'est resserrée. Donc non, je ne serais pas prêt à dire que les jouets importés ou les jouets importés de certaines régions du globe sont plus problématiques.
Et en ce qui a trait au type de matériaux, bon, on sait, les jouets parfois sont en bois, en plastique, en métal. Est-ce qu'on observe ça?
Bien, il est possible de trouver sur le marché des jouets de qualité qui sont robustes, peu importe le matériau qui est utilisé, que ce soit le bois, le plastique ou le métal. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que le jouet ne va pas se briser facilement. Si le jouet se brise, il va se briser de façon sécuritaire. Et là, ça peut sembler étrange ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que le jouet ne doit pas libérer de petites pièces lorsqu'il se brise ou il ne doit pas créer de bouts pointus ou tranchants avec lesquels l'enfant va se couper. Donc, il y a aussi un aspect contamination chimique, des fois qu'on va croire lié avec les matériaux. Donc, certaines personnes sont davantage préoccupées par les jouets en plastique. Et je rappellerai qu'en 2011, le gouvernement a pris des mesures pour limiter l'utilisation de certains phtalates, qui sont des substances chimiques sur lesquelles on s'interroge, qui sont contenues dans les jouets. Les jouets en bois, quant à eux, vont être recouverts d'une couche de peinture. Donc, on va s'intéresser à la teneur en métaux lourds des peintures, donc par exemple le plomb. Il y a certains produits qui vont être en métal ou des produits qui ne sont pas nécessairement des jouets, mais par exemple des bijoux pour enfants métalliques. Et ces bijoux-là pourraient être contaminés par du plomb. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas possible d'identifier à l'œil nu. Donc, par mesure de précaution, on recommande d'apprendre aux enfants de ne pas porter les bijoux métalliques à leur bouche.
Oui, puis on sait, c'est intéressant que vous le souligniez, Alexandre Renaudot, les enfants, surtout quand on parle des enfants de 5 ans et moins, aiment tout mettre dans leur bouche. Donc, évidemment, s'il y a un vernis ou une substance chimique là, sur le jouet, ben, ça peut être un petit peu plus à risque. Évidemment, ça faire attention. Les enfants aiment se maquiller. Pas juste à l'Halloween, hein. Ils aiment se costumer, se transformer. Il y a aussi des avertissements sur des substances chimiques, des produits qu'on retrouverait dans les maquillages pour enfants. Ou encore, je pense à maquillage, mais je pense aussi aux crayons à colorier, à la peinture aussi, parce qu'ils aiment bricoler.
Effectivement, il y a des recommandations en ce qui a trait aux matériaux de bricolage. Puis je pourrais faire les mêmes recommandations pour le maquillage, les produits cosmétiques. Ce sont des produits sur lesquels leur étiquette va porter des mentions d'avertissement. Donc, c'est important d'y porter attention. Et sur certains produits de bricolage, comme les peintures, les colles, les gouaches, il peut y avoir des pictogrammes de danger. Donc, je fais référence aux symboles dans les hectogones avec lesquels on est familier, donc la main, la tête de mort, la flamme. On devrait apprendre aux enfants que ces pictogrammes-là signifient « danger, ne pas toucher ». Et aussi, ça peut être préférable de donner accès à l'enfant qui a une petite quantité de produits à la fois. Par exemple, une petite quantité de colle qu'on va transvider dans un petit contenant de yogourt, par exemple. Comme ça, si l'enfant, par accident, ingère la substance, bien, l'effet risque d'être moins grave que s'il a eu accès à une grande quantité de produits. Aussi, ces produits-là, surtout les produits avec les pictogrammes, quelquefois, ils vont être dans des contenants qu'on appelle « protège-enfant ». Donc, des contenants qui ont le fameux bouchon, la double action qu'on doit d'abord presser avant de tourner. Je rappellerai aux parents que ces bouchons-là n'offrent pas de garantie qu'ils ne peuvent pas être ouverts par l'enfant. Donc, oui, c'est un élément de sécurité, mais on devrait quand même laisser ces produits-là sous clé.
Alexandre Renaudot, une fois que les jouets sont achetés, ils sont à la maison, est-ce qu'il faut les inspecter? Je reviens toujours à cet exemple de l'Halloween. Là. Souvent, quand la récolte de bonbons est faite, on observe les bonbons en matière de sécurité pour pas que nos enfants ingèrent n'importe quoi. Est-ce qu'on devrait faire ça avec les jouets également?
Bien, c'est une bonne question parce que je pense qu'on a beau acheter les meilleurs jouets disponibles sur le marché. Le jeu demande une certaine supervision et on devrait s'assurer que les jouets restent en bon état. Certains jouets ont des vis, donc les vis risquent de se desserrer. Donc, on voudrait toujours vérifier si le jouet est en bonne condition. Et lorsque le jouet se brise, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de retirer le produit de l'environnement de l'enfant. Et ensuite, on encourage le parent ou la personne qui a la garde de l'enfant de communiquer avec le fabricant pour lui faire un signalement. Vous pouvez aussi communiquer avec Santé Canada en vous rendant sur notre site Internet à l'adresse canada.ca/santé et on vous invite à compléter un formulaire de déclaration lorsqu'il arrive un incident. Et là, ça nous permet aux inspecteurs de Santé Canada de nous pencher sur l'incident et de voir avec le fabricant s'il y a lieu d'apporter des mesures.
Et j'imagine que les fabricants sont assez ouverts à recevoir ces recommandations-là ou ces commentaires-là.
Ben oui, d'une part, ils sont ouverts à recevoir les signalements des consommateurs parce que même s'ils testent les produits avant leur commercialisation, il y a des produits, il y a des problèmes qui vont survenir seulement lorsque le produit est utilisé à grande échelle. Et je vous rappellerai que depuis 2011, la législation a changé. Et ces fabricants, lorsqu'un incident est porté à leur connaissance, ils ont l'obligation de signaler à Santé Canada. Et lorsqu'on reçoit des signalements semblables, ça nous permet, par exemple, d'identifier des enjeux émergents et prendre des mesures pour que le marché demeure sécuritaire.
Faut-il faire attention à l'emballage? On sait qu'il y a encore là, beaucoup de plastique. Les enfants peuvent se mettre ça dans la bouche, là, l'emballage du jouet.
Bien, je pense qu'on s'attend à juste titre que le jouet soit sécuritaire, mais l'emballage n'est pas nécessairement sécuritaire pour l'enfant. Donc, l'emballage peut contenir des broches, des attaches. Donc, si on laisse l'enfant déballer lui-même son produit, lui-même son jouet, il faut s'assurer de tout de suite retirer les événements de l'emballage de son environnement. Particulièrement les sacs de plastique souple, qui posent un danger de suffocation, surtout quand l'ouverture du sac est suffisamment grande pour que le sac épouse la forme du visage de l'enfant et ses voies respiratoires. Donc, ces sacs-là doivent porter une mise en garde qui rappelle aux parents que les sacs peuvent être dangereux et qu'on doit tout de suite les retirer de l'environnement.
Quelles sont les recommandations en matière de jouets sonores? Là, j'ai vu dernièrement que les casques d'écoute pour écouter la musique, là, certaines compagnies offraient une espèce de, peut-être je m'exprime mal, un gradateur, c'est-à-dire on ne pouvait pas dépasser tant de décibels.
Bien, pour les jouets, en fait, le règlement prévoit que le jouet ne doit pas émettre un niveau sonore qui dépasse 100 décibels. Et je vous dirais que par expérience, comme inspecteur, c'est passablement rare qu'on identifie des jouets dont le niveau sonore dépasse 100 décibels. Donc, à titre de référence, ça correspond environ au bruit d'une tondeuse à essence, tondeuse à gazon à essence. Donc, mais peut-être, oui, il y a lieu de prendre des précautions supplémentaires, surtout pour les jouets qui sont utilisés près des oreilles. Comme des fois, on a des jouets téléphone intelligent pour les enfants. Et lorsqu'ils sont utilisés près des oreilles, c'est là que l'enfant va être exposé à un niveau sonore plus important. Donc, ce qu'on peut faire comme parent, il existe certaines applications pour téléphone intelligent qui peuvent nous donner un aperçu. Peut-être pas une mesure exacte comme celle qu'on obtient en laboratoire, mais un aperçu du niveau sonore du jouet. Et si vous avez un doute, on vous invite à contacter le fabricant ou encore Santé Canada. Et la plupart du temps, le fabricant va être en mesure de vous donner de l'information quantitative sur le niveau sonore du jouet.
Oui, parce que l'ouïe des enfants est fragile.
Absolument.
Oui. Maintenant, un autre jouet ou jeu très, très apprécié des enfants, c'est le trampoline. Bon, c'est sûr que l'hiver, là, à moins d'avoir un grand sous-sol, c'est peut-être un peu moins commun, mais dans les cours, l'été, on y joue beaucoup, puis je serais pas étonnée que les enfants demandent ça au Père Noël. Bon, pour les fêtes qui viennent, est-ce qu'il y a des recommandations à suivre aussi?
J'aurais tellement été heureux qu'il y ait des trampolines à la maison quand j'étais enfant. Malheureusement, c'était pas le cas, mais peut-être que ça m'a évité une blessure parce que vous avez raison que c'est un jouet qui est très populaire, mais en même temps, il est relié avec certaines blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant certaines précautions, il est néanmoins possible d'en faire un usage qui est sécuritaire. Donc, les consignes d'usage, ce sont qu'il devrait y avoir qu'une seule personne à la fois sur le trampoline. On devrait toujours utiliser le filet de sécurité là, qui fait le tour là, du périmètre de la trampoline. On devrait limiter l'accès aux trampolines aux enfants de 6 ans et plus. Finalement, on devrait dissuader là, les enfants d'essayer d'effectuer des sauts périlleux ou des acrobaties.
Ou encore y aller avec un adulte, et je suis certaine que vous seriez très, très enclin à y aller, Alexandre Nadeau.
Moi, je n'ai pas de volontaire pour utiliser les trampolines.
En terminant, les jouets usagés, là, parce qu'on a le temps, les marchés aux puces, ça, la cote à peu près tout le temps, pas juste pendant les fêtes, mais également à l'année, on peut y dénicher des petites trouvailles, des jouets pour les enfants. On vérifie quoi?
C'est une bonne question et les jouets usagés, oui, sont populaires, vous le mentionnez. Des fois, c'est des produits qui ont été achetés chez les marchands de produits usagés. Donc, nous, on fait de la sensibilisation auprès des marchands pour qu'ils fassent eux-mêmes des vérifications. Mais des fois, c'est des jouets qu'on va obtenir de la part d'une sœur qui n'en a plus besoin. Donc, avant d'utiliser un produit usagé, là, on devrait vérifier auprès du fabricant si le produit a fait l'objet d'un rappel. Et vous pouvez aussi consulter la base de données sur le site web des rappels de Santé Canada, sur le site canadien en santé.gc.ca. Donc, on peut facilement effectuer des recherches par mots-clés, puis vérifier si un jouet ou n'importe quel autre produit pour enfants ou produit de consommation a fait l'objet d'un rappel. Mm-hmm. Vous devrez aussi vérifier que le jouet est en bon état. Donc, possiblement que le jouet était sécuritaire au moment de la vente, mais qu'il a été endommagé. Donc, on doit vérifier son état. Dans certains cas, on devrait vérifier que les instructions du fabricant sont incluses et qu'ils sont toujours lisibles. Puis, il faut garder à l'esprit que la réglementation applicable aux produits pour enfants a évolué au fil des années. Donc, si vous avez des préoccupations relativement à un produit en particulier, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site Internet pour obtenir d'informations complémentaires sur la sécurité des jouets ou des autres produits pour enfants.
Et on range les jouets comme il faut parce que marcher sur un bloc Lego, ça fait pas de bien à personne. Alexandre Nadeau, inspecteur de la sécurité des produits et porte-parole pour Santé Canada, merci beaucoup. On glissera tous les liens que vous avez mentionnés au cours de l'entrevue sur notre site.
C'est très gentil, je vous remercie et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
Joyeuses fêtes à vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Philippe Desrosiers.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir à mon studio aujourd'hui.
Cher collègue.
Homologue, j'aime bien dire, parce que, cet automne, il y a un nouveau magazine que vous animez qui a pris l'antenne à ICI Radio-Canada Première, une émission sur la santé et la consommation. Ça s'appelle Les Éclaireurs. C'est très drôle, Philippe Desrosiers, grâce à vous, probablement. Mmh. Assez rigoureux grâce à vos collaborateurs, j'imagine.
Oui, certainement. Ça a été des gens compétents. Beaucoup de journalistes dont c'est la spécialité, par exemple, des spécialistes de la santé, ce qui donne une crédibilité instantanée à l'émission. Ce n'est pas des gens, c'est pas des généralistes qui viennent en parler, c'est des gens qui font ça dans le reste de leur vie.
Oui, c'est très informatif. Mmh. Le pharmacien qui a participé dernièrement, qu'on adore ici également. Cathy Bazinet, Technosanté, qui est venue ici. Vous voyez, on a les mêmes collaborateurs.
Bien sûr, puisqu'on a le même sujet.
Je suis un peu envieuse de Dominique Forgette, journaliste scientifique. Je dois vous l'avouer, on va essayer de l'attirer.
Elle est très bonne.
Philippe, vous êtes ici parce que je vous ai demandé un mandat. L'année 2014 termine. Vous avez justement pataugé dans la santé les derniers mois. Un petit peu les découvertes les plus utiles, ce qui a retenu votre attention en matière de santé, que ce soit des initiatives, des programmes, vous recevez des scientifiques, donc des recherches là, à l'avant-garde, à la fine pointe. Mais d'abord, vous apprenez, et je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement curieux, qui adore apprendre. Ça doit être fantastique, cette émission-là, pour ça.
Ah, c'est d'une densité vraiment impressionnante. Quand les premières fois où je le faisais, à la fin de la deuxième heure, j'étais épuisé. Comme si j'avais joué une partie d'hockey. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de monde qui se succède, un coup de fil à l'étranger à chaque fois, des invités. Et une densité que j'aime beaucoup, qui me stimule beaucoup, mais qui effectivement est très, très demandante. Alors, vous le disiez d'entrée de jeu, j'essaie de rendre ça un peu plus convivial et drôle. C'est un grand plateau et tout ça, parce que ça peut être des sujets qui sont arides, mais si on réussit à le vulgariser d'abord grâce aux collaborateurs, puis aussi à avoir du plaisir avec ça, bien là, ça allège le tout pour les gens qui l'écoutent.
Vous êtes enseignant en psychologie au cégep Lionel Groulx. Est-ce que ces notions-là vous aident parfois? Parce que, santé, c'est aussi santé mentale. Donc, il y a des notions de psychologie parfois. Est-ce que vous arrivez, ça vous aide à faire des liens?
Oui, tout à fait. Il y a certains des sujets qu'on aborde qui sont carrément dans mon champ de compétences, disons. Si on parle de maladie mentale, si on parle du cerveau. Je me retrouve assez bien là-dedans. Là où est-ce que je suis plus néophyte, où je suis le premier spectateur, le premier auditeur, c'est dans les sujets de santé physique ou de consommation, de marketing. Alors, comme on ratisse très, très large comme ça, il y a ce domaine-là où est-ce que je me sens un peu plus... les deux pieds par terre et je moins à fouiller pour être bien sûr de ne pas dire de niaiserie.
Mais avec Jacques Nantel,
qui
vous accompagne, ça, c'est des bonnes sources, c'est sûr, ça.
Oui, tout à fait. Puis vous parliez de Dominique Forgette, également Marie-Pierre Élie, également Marie-Hélène Proulx, donc des gens qui ont beaucoup d'expérience en journalisme.
Alors, allons-y pour entendre vos idées là-dessus. On a dit 5, là, mais il y en aura peut-être moins, il y en aura peut-être plus. Là, c'est un petit peu votre liste à vous, ce qui a retenu votre attention en matière de santé?
Ça va être... je veux pas dire que ça va être un peu plate, mais c'est pas des trucs qui sont vraiment exotiques. C'est pas des choses où est-ce qu'il va y avoir des grandes révélations. Et c'est ce dont je me rends compte avec cette émission-là. C'est-à-dire que plus ça va, plus je me rends compte que c'est vraiment des choses simples qui font en sorte qu'on est en santé.
Mm-hmm.
Par exemple, dormir. On a eu des invités qui sont venus nous parler de ça. Je me souviens d'avoir vu des documentaires sur des athlètes ou lu des entrevues sur des grands athlètes comme Armstrong, qui, sa carrière a été teintée par le dopage, mais c'est quand même un grand athlète, comme Harvey, le skieur de fond, qui dort, mais des quantités astronomiques.
Ça déculpabilise, en tout cas.
Oui, tout à fait, quand on fait la grasse matinée. Donc, eux vont dormir jusqu'à 11 heures, parfois 12 heures par nuit, des choses vraiment impressionnantes pour donner la chance à leur corps de se construire et de se reconstruire correctement. Donc ça, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que si on est privé de sommeil, il va y avoir des impacts. Dans les années 60, par exemple, on avait fait une étude aux États-Unis où est-ce qu'on demandait aux gens combien de temps ils dormaient, puis en moyenne, c'était 8 heures. Et maintenant, la moyenne, c'est 6 heures aux États-Unis. Donc, on a beaucoup perdu de sommeil et il y a plein d'impacts sur la santé, entre autres l'embonpoint, entre autres certaines maladies physiques qui sont reliées à ça. Évidemment, d'autres choses qui ne sont pas chiffrables de manière plus formelle, mais comme par exemple de s'endormir au travail, d'être moins vigilant, d'être moins créatif, etc., etc. Donc, effectivement, on peut le prendre comme un truc de santé. Dormir, on le voit comme un vice ici, alors que c'est un truc de santé fondamental. D'autres choses qui sont aussi très simples. Moi, j'essaie de ne pas manger d'aliments transformés, de ne pas acheter des choses qui sont tout faites. La plupart des gens que je reçois qui parlent de quelque chose qui a trait à l'alimentation, c'est de ça dont ils parlent. Ouais.
Fruits, légumes, en fait, on revient à ça.
Fruits, légumes, huile d'olive, et tout faire soi-même. T'sais, si on sale nous-mêmes notre nourriture, plutôt que d'acheter des choses qui sont déjà salées, on n'en mettra jamais autant qu'ils en auraient mis en usine. Alors, donc ça aussi, c'est des trucs vraiment simples. C'est pour ça que je disais, je suis plate. Je veux dire, dormir, manger.
Mais c'est les constats que l'on fait quand on anime une émission sur la santé et qu'on reçoit des spécialistes nutrition, sommeil, etc., c'est qu'on revient à l'essentiel, c'est ce qu'on apprend.
Tout à fait. Ce que ma mère me disait quand j'étais petit, tiens-toi droit, ça peut avoir un impact, la posture. Mange bien, dors, puis d'avoir une esthétique aussi sociale. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent, qui montrent que, par exemple, le fait d'être tout seul, de ne pas être entouré de gens, ça a un impact non seulement psychologique, bien sûr, mais physique aussi. Et que les gens qui... Puis c'est même un article du Guardian que je lisais récemment de Londres, qui disait que c'est le mal du siècle pour ce journaliste-là, et puis que les gens se retrouvent plus en plus isolés, de plus en plus seuls, et que ça a des impacts physiques. Il y a plein d'études qui le montrent, que le fait d'être tout seul, c'est très étrange. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait rentrer dans notre corps, ça n'a rien à voir avec l'activité physique qu'on fait, mais le fait d'être tout seul peut être taxant pour l'organisme, et on peut être malade plus facilement.
Mais s'isoler, c'est souvent, ça se résume en 2014, souvent être devant un écran. Écran amène à être assis et inactif.
Oui. Mais puis quand on parle d'interaction, justement, il y a des gens qui pourraient dire « Ah oui, mais il y a les médias sociaux et tout ça. » Non, mais quand les études portent sur des vraies interactions. Donc, si on est sur Facebook ou sur, sur les sites de partage de photos, ce genre de choses-là, même si on parle à des gens, c'est pas du vrai contact. Et ça, j'essaie d'avoir cette esthétique-là, même quand je suis très, très occupé. Hier, par exemple, je suis allé voir la partie de hockey avec des amis, d'où ma voix, parce que j'ai beaucoup crié le nom de Galchenyuk. Mais donc, c'est important de rentrer ça dans l'horaire parce que... Et puis aujourd'hui, même si je suis plus fatigué, même si physiquement, effectivement, bon, j'ai peut-être un peu moins bien, moins dormi, mais ça m'a fait un grand, grand bien, puis ça me donne du carburant pour passer le reste de la semaine, là, facilement.
Et le plaisir, c'est bon pour la santé.
Oui, d'avoir du plaisir. Puis un petit truc qui est peut-être plus
très
original.
Rapidement, parce qu'il nous reste une minute, Philippe Desrosiers.
C'est les mêmes contraintes qu'on a de l'autre côté de la rue à Radio-Canada. Aimer l'hiver. Ça, c'est spécifique à ici. Il faut apprendre à aimer l'hiver parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se murer, qui vont rester chez eux, qui vont pester. Moi, je pense que si on se trouve une activité extérieure hivernale, ça fait une grosse différence dans notre santé au bout du compte.
Vous revenez quand, en janvier?
On n'arrête pas, en fait.
Ah, vous arrêtez
pas? On n'arrête pas. On arrête
samedi,
en
14
juin.
À 16 heures.
Oui, voilà.
Bon, ben prenez quand même le temps de vous bien dormir, bien manger, avoir du plaisir. Je vous souhaite tout ça pour 2015.
Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci d'avoir été présent, les éclaireurs, ici Radio-Canada Première. Jean-Sébastien de la Liberté, merci beaucoup. Dernier mercredi avec toi. Bonne année. Merci de m'accompagner à travers cette émission-là. Et puis nous, ben, on se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien d'ici là. Je vous embrasse. Bye-bye.